Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag.
Traité Yebamot, page 24, DAF Kaf Dalet.
Bonjour à tous, le DAF est clair, Yebamot, Kaf Dalet. La Mishnah nous enseigne que la mitzvah de faire Iboum commence par le grand frère. Si jamais un petit frère a fait Iboum, le Iboum est validé. La Braïta nous dit que quand il est marqué dans le Pasuk Vaya Bechor, on ne parle pas de l'enfant qui va naître, mais on parle de l'enfant qui doit faire Iboum, ce sera le plus grand. Hachem Telet vient nous apprendre que c'est seulement une femme qui peut avoir des enfants. Yakoum Hachem Achiv, ça vient nous enseigner qu'il va hériter de son frère. D'où est-ce qu'on sait qu'il va hériter? Peut-être que ça veut dire qu'il faut nommer l'enfant sur le nom du défunt, comme il est marqué ici dans le Pasuk Yakoum Hachem Achiv. Et au sujet des frères de Yosef, au sujet des enfants de Yosef, il est marqué Hachem, Achem, Ikarou, Benachalatam, on parle d'héritage. Chez nous aussi, on parle d'héritage. Le Yemachéchevo, il est marqué que le Yavam doit avoir des enfants pour que le nom de son frère ne soit pas effacé. Si ce frère, de toutes les façons, ne pouvait pas avoir d'enfant, donc son nom était déjà effacé. On va nous dire que bien qu'en général, En Mikraotemi de Pshuto, c'est-à-dire qu'on va garder l'explication de base du Pasuk, sachant que ici, on a l'Exera Shava, on n'aura pas l'explication de base, donc on n'aura pas l'obligation de nommer l'enfant sur le nom du défunt. Donc voilà, quoi. Mais si on n'avait pas l'Exera Shava, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit qu'il faut l'appeler sur le nom du frère, mais pourtant c'est mal présenté dans le Pasuk. Si on parlait au Yavam, on aurait dû dire Yakoum Hashem Achicha. Si on parlait au Bedin, on aurait dû dire Yakoum Hashem Achiaviv. Donc comment est-ce qu'on aurait pu expliquer qu'on parle de nommer l'enfant? Peut-être que le Pasuk s'adressait au Bedil et leur disait « Vous devez dire au Yavam qu'il doit nommer cet enfant sur le nom de son frère. » Donc dans l'absolu, on aurait très bien pu l'expliquer ce Pasuk pour dire qu'il faut nommer l'enfant sur le nom du défunt. Et c'est la Gzera Shava qui nous a sorti de cette explication. On dit la Gmara, puisque maintenant tu me dis que le Pasuk ne parle pas de l'enfant mais parle du Yavam, peut-être qu'on devrait dire que seul le Bechor peut faire Iboum et pas quelqu'un d'autre. J'ai la Gmara, mais si c'est comme ça, alors pourquoi est-ce que les Chetachim, Shloya, Beolamo, on a besoin de dire qu'il ne peut pas faire Iboum? Si seul le Bechor peut faire Iboum, un enfant qui est né après, évidemment, il n'est pas Bechor. La Gmara nous dit non, mais on aurait pu croire qu'un enfant qui est Bechor par la mère, bien qu'il soit né après son grand frère, mais puisqu'il est Bechor par la mère, il aurait pu faire Iboum. J'ai la Gmara, non, ça on n'aurait jamais pu dire, puisque le Yavam va remplacer son frère en tant qu'héritier, et l'héritage c'est seulement par le père, donc forcément ils ont le même père, et donc. Si tu me dis que seul le Bechor peut faire Iboum, comment est-ce qu'on peut avoir un enfant de Achiv, Eshet Achiv Shiloya Beolamo? Nous disons peut-être qu'on devrait dire que quand il y a un Bechor, il y a Iboum, quand il n'y a pas de Bechor, il n'y a pas de Iboum, c'est-à-dire pas forcément le Bechor, mais seulement dans une famille où il y a un premier-né, on fera un Iboum, mais sinon il n'y aura pas de Iboum. Puisqu'il est marqué dans le passé, quand on te dit que l'un des deux est décédé, qu'il n'y en a que deux, n'est-ce pas qu'on parle que le Bechor est décédé et c'est le Pachout, c'est le petit frère qui a fait? Je dis peut-être pas. Peut-être qu'on parle que c'est le petit frère qui veut faire Iboum et qui est décédé et le Bechor doit faire Iboum. Jagma, mais si c'est comme ça, ça voudrait dire que seul le Bechor peut faire Iboum. Encore une fois, on revient à notre question. Il est marqué, c'est-à-dire, le frère qui n'était pas là ne peut pas faire Iboum, d'après ce que tu es en train de dire. Seul celui qui était déjà là peut faire Iboum. Et là, Jagma, peut-être qu'on pourrait expliquer que le Pasuk vient préciser qu'en général, c'est le Bechor qui doit passer avant, mais quelqu'un d'autre aussi pourrait. S'il n'y a pas de Bechor, alors n'importe quel enfant pourrait passer en premier. Et s'il y a un Bechor, c'est le Bechor qui passe en premier. Et si quelqu'un d'autre a piqué sa place, si quelqu'un d'autre est venu à faire Iboum, le Iboum ne sera pas validé. On nous dit ça aussi, c'est impossible de dire, puisqu'il est marqué qui échoue à Chimertav, donc on les a tous mis à égalité. Jagmar, peut-être qu'on pourrait dire que quand il y a un Bechor, alors on va vers le Bechor et sinon on va vers le plus grand. Mais quand il n'y a pas de Bechor, on n'irait pas vers le plus grand. Or, on a une Braïta qui nous dit juste le contraire, que même s'il n'y a pas de Bechor, on va vers le plus grand. Jagmar nous dit que Bechor, ma Bechor, Bechorato Gamalo, de la même manière qu'un Bechor, le fait qu'il soit plus grand, c'est ça qui va le mettre en avant. De la même manière, un enfant qui est plus grand, il sera mis en avant. Jagmar, peut-être que le Pasuk nous dirait que quand le Bechor, il fait Iboum, alors il reçoit la Nachala, l'héritage, mais c'est long, il ne reçoit pas l'héritage. Et pour la Gemara, il est marqué Yakoum Hashem Achiv. Il a été remplaçant de son frère, puisqu'il a été remplaçant de son frère, il n'y a pas de raison de l'empêcher de toucher l'héritage. Et là, nous dit la Gemara, alors pourquoi est-ce qu'il a été Bechor? Pourquoi est-ce qu'il a été nommé Bechor? Pour nous dire que, de la même manière que Bechor ne reçoit seulement dans le Mourzak et pas dans le Raou, c'est-à-dire que ce qui est censé arriver, il n'a pas double part. De la même manière, lui aussi, il a ce statut de Bechor. Il ne recevra double part que dans ce qui appartenait déjà à son père, mais pas ce que son père est censé recevoir après son décès. La Mishnah nous enseigne que celui qui est suspecté d'avoir eu un rapport avec une Chifra ou avec une Goya, si jamais elle s'est convertie ou elle a été libérée, il n'a pas le droit de se marier avec elle, mais s'il s'est marié avec elle, il restera avec elle. Par contre, si jamais il a été suspecté d'avoir un rapport avec une femme mariée, même si elle a divorcé, il ne pourra pas rester marié avec elle. On devra le forcer à divorcer de son deuxième mari. La Gemara nous dit, de la première partie de la Mishnah, on comprend que la conversion est validée. Le seul problème, c'est est-ce qu'il peut rester marié avec elle. Et pourtant, il est marqué dans la Braïta que celui qui s'est converti par intérêt pour se marier, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, ou alors celui qui se convertit par intérêt pour de l'argent, il n'est pas défini comme un converti, comme Rabbi Nechemia qui disait toujours que celui qui est converti par peur de lion ou parce qu'il a vu un ange qui lui disait de se convertir, ou comme dans la période de Mordechai Esther, n'est pas défini comme converti jusqu'à qu'il soit converti bismanazé. Et moi, je dis, qu'est-ce que ça veut dire bismanazé? Qu'est bismanazé? C'est-à-dire qu'il soit converti comme dans une période actuelle. Cette période actuelle, personne n'est jaloux du peuple juif. S'il se convertit sans intérêt, la conversion est validée. Mais s'il se convertit avec intérêt, la conversion n'est pas validée. Donc, dans la Gemara, comment est-ce que la conversion est validée quand il était suspecté d'avoir un rapport avec cette femme-là, quand elle s'est convertie, elle s'est convertie par intérêt à la Gemara, que Rav dit que la Lacha est comme celui qui pense que bien qu'il s'est converti par intérêt, la conversion est validée. Ah ben si c'est comme ça, il a qu'à se marier avec elle, Khatrila. La Gemara nous dit que les Khatrila, on l'empêche de se marier avec elle, puisqu'il est marqué au nom de Ravasim, Asim, Khaik Chupé, ou le Zout Fataim, c'est-à-dire fais en sorte de ne pas rentrer dans des situations où on va parler sur toi. Donc c'est pour ça que le Khatrila, on te dit ne te marie pas avec elle. La Marita nous dit qu'au temps du Mashiach, on n'accepte pas les guérims. De la même manière, au temps de David de Shlomo HaMelech, on n'acceptait pas les convertis. D'où est-ce qu'on le sait? Parce qu'il est marqué « Hengo Yago Efes Meoti ». S'il se convertit, au moment où Efes Meoti, ou moi je ne suis pas là, alors lui, il pourra, à la Echipol, il pourra partager avec toi ton lamama. Mais sinon, il n'y a pas de mitzvah de le convertir. La Gemara nous dit que celui qui suspecte un homme, celui qui est suspecté d'avoir un rapport avec une femme mariée, alors il devra divorcer évidemment de son premier mari. Mais même de son second mari. Nous explique Rav, on ne parle pas stam d'un bruit, on parle d'un témoignage. Dit Rav Shechet, moi je crois que Rav, quand il a dit ça, il était endormi, puisqu'il est marqué au sujet d'une personne qui était suspectée, et on l'a fait divorcer. Cette femme est partie se marier avec une deuxième personne. Et après, elle a divorcé de cette deuxième personne, elle est partie chez la troisième personne, celle qui était suspectée d'avoir eu un rapport avec elle quand elle avait été mariée. Si jamais elle s'est mariée avec la troisième personne, elle ne devrait pas divorcer. De quel cas on parle devant la Gemara? Si on parle qu'il y a témoignage sur la faute qui a été faite entre le premier mari et cette femme-là, même s'il y a 100 personnes entre le premier mari et le dernier mari, celui qui est suspecté, elle devrait divorcer. Et là, forcément, on parle d'un cas où il n'y a pas de témoignage. Et pourquoi est-ce qu'on la laisse marier avec le suspect? Parce qu'il y a eu un mariage au milieu qui va faire taire les bruits. Mais s'il n'y avait pas eu de mariage au milieu, on l'aurait fait divorcer. Donc on voit qu'on peut la faire divorcer même s'il n'y a qu'un bruit. Rav nous dit, en vérité, même s'il y avait personne au milieu, on aurait pu la faire sortir que s'il y avait des témoins. Et s'il n'y avait pas de témoins, on n'aurait pas pu la faire sortir. Et l'explication de la Mishnah, c'est que bien qu'il y ait quelqu'un d'autre au milieu qui a fait taire le bruit, il y a eu un mariage au milieu, les Khatrila, on ne la laissera pas se marier. Donc Rav continue à penser que la seule possibilité de faire sortir cette femme, c'est seulement s'il y a témoignage. Demande la Gemara. Ari, il est marqué que si jamais le suspect a eu un rapport avec elle, alors on devra le faire sortir. C'est seulement quand la femme n'avait pas d'enfant du premier mariage. Mais s'il avait des enfants du premier mariage, on ne va pas la faire sortir du second mari, elle va rester mariée. Ah, mais d'après toi, Rav, on ne fait divorcer une femme que s'il y a témoignage. Donc, il faut qu'il y ait ma filu yesh la kamabanim, même si, d'après toi, il y avait témoignage. Même si elle avait 150 enfants du premier mari, elle aurait dû divorcer. Rav explique que la Mishnah, elle parle d'un cas où elle avait des enfants et c'est pour ça qu'il faut un témoignage. C'est-à-dire que dans l'absolu, Rav est d'accord qu'on peut faire divorcer une femme même sans témoignage par un bruit, c'est suffisant. Mais dans notre Mishnah, il parle d'un cas où il y a des enfants, c'est pour ça qu'il faut un témoignage. Ah mais pourquoi est-ce que Rav a cherché midi à 14h? Pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il y avait des enfants et c'est pour ça qu'il faut des témoignages? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas expliqué simplement qu'il n'y avait pas d'enfants et on peut la faire divorcer simplement parce qu'il y avait un bruit? Agmar nous dit, puisque les termes de la Mishnah c'est Vehoti Ura, Vehoti Ura c'est ça, s'entend le Bedin ne peut la forcer à divorcer que s'il y a eu témoignage. Autre réponse, tous ces enseignements, on voit qu'on peut faire sortir quelqu'un par bruit, donc toutes ces braïtot, c'est d'après l'avis de Rémi. Rémi pense que quand il y a un bruit, c'est suffisant pour la forcer à divorcer. Rav pense, comme on l'a dit précédemment, à savoir, seulement s'il y a des témoignages, on pourra la faire divorcer. Qu'est-ce que Rémi nous a enseigné? Quand le porteur qui sort de chez soi, il voit sa femme qui était un peu habillée bizarrement, puisqu'il y a quand même un problème, alors par le fait qu'il y a un suspect, on va la faire divorcer. De la même manière, s'il voit dans son lit qu'il y a du roc, qu'il y a un crachat sur le lit, donc il peut suspecter que ça a été fait pendant le rapport. De la même manière, s'il voit sous le lit, s'il voit des chaussures à l'envers, il m'a dit qu'il n'y aura pas les chaussures à l'envers, t'as qu'à vérifier, c'est les chaussures à qui elles appartiennent. Il m'a dit non, c'est pas les chaussures, c'est la marque des chaussures qui sont faites dans le sable. Elles sont faites d'une manière pour cacher à qui elles appartenaient. C'est ça qui met la puce à l'oreille, c'est ça qui va forcer à divorcer. Donc Rémi pense qu'on peut forcer une femme à divorcer seulement par bruit, Rav pense seulement par témoignage. On va résumer un peu ce qu'on a vu. La première chose qu'on a vu, c'est que Yiboum, c'est la personne, le frère le plus âgé qui doit faire Yiboum. Si un autre des enfants a fait Yiboum, le Yiboum est validé. Si la femme est aïlonite ou le mari défunt était quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant, il n'y aura pas de Yiboum. Et le Yavam va hériter de tout ce que son frère est censé hériter, seulement Bemurzak et l'Oberaoui, c'est-à-dire seulement ce qui était la propriété de leur défunt père, et non pas ce qui est censé arriver dans la propriété du père. Celui qui est suspecté d'avoir eu un rapport avec une non-juive n'a pas le droit de se marier avec elle quand elle se convertit. La conversion est validée, mais il n'a pas le droit de se marier avec elle. Pourquoi? Parce que ça va faire du bruit, mais s'il s'est marié avec elle, il a le droit de rester avec elle. Par contre, celui qui était marié, qui était suspecté d'avoir eu un rapport avec une femme mariée, cette femme a divorcé, il n'a pas le droit de se marier avec elle, et s'il s'est marié avec elle, il doit divorcer. Dans quel cas? D'après Rav, à part seulement à partir du cas où il y a des témoignages, d'après Rebbi, même s'il n'y a pas de témoignage, seulement s'il y a un bruit, il aura l'obligation de divorcer. Le daf est clairement au prochain, bien demain, Bezrat Hashem.